Bienvenue à ce premier discours. Dans ce discours, je vais aborder la méditation allongée et aussi la pratique de bienveillance. Donc c'est notre première journée entière de retraite, nos premières 24 heures. Bon, pas mal de méditation allongée quand même. Je me demande qui, peut-être on peut avoir une main levée, de qui se sent fatigué. Voilà, donc quand même un bon nombre d'entre nous. Je réfléchissais à ça et en fait, ce qui m'apparaît, c'est que la méditation allongée, on vient et on se permet de vraiment se poser, de vraiment se déposer. Et en fait, je pense qu'une des choses qui se passe avec cette ouverture et cette dépose, c'est que une partie du stress qui est quotidien, en fait, tombe. Et que souvent, en fait, ce qui m'apparaît, c'est que on ne se sent pas fatigué parce qu'on vit sur les nerfs. Donc on est... En fait, on est fioulé, on est tonique sur une vague d'une certaine tension. On maintient une certaine tension, en fait, nécessaire pour pouvoir gérer tout ce qu'on a à gérer. Plus toute une tension psychologique qui est en arrière-plan. Et cette tension, en fait, fait que on ne sent pas forcément la fatigue, mais que dès que... on ne fonctionne plus avec cette tension, dès qu'on lui permet un petit peu de disparaître, dès qu'on ne l'entretient plus, en fait, là, on se sent fatigué. Et donc, c'est souvent ce qui se passe dans les retraites de méditation allongée pour beaucoup de personnes. Là, ici, on a vu une bonne moitié du groupe. C'est que les premiers jours, en fait, on ressent de la fatigue. Et parfois, c'est étonnant parce que, en fait, on va dormir la journée, on va dormir la nuit, on va redormir le lendemain, on va beaucoup dormir dans le hall et tout ça. De là peut naître énormément de frustration, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression de rater notre retraite. On se dit, zut, je suis venu trop fatigué, tout ça, je ne peux pas vraiment rentrer dans la méditation parce que voilà, je n'ai pas la possibilité de pratiquer parce que je m'endors à chaque fois. Mais en fait, ça fait partie vraiment du processus. Et je pense que c'est bon de le voir comme ça, de savoir que c'est normal, en venant de cette vie du quotidien et en se posant ici, c'est normal en fait qu'il y ait une bonne partie de notre expérience de la méditation allongée, soit du sommeil, et qu'il y ait cette sensation d'avoir des gros coups de mou, des moments de fatigue. Je me rappelle quand... mes premières retraites de méditation allongée, j'avais déjà pratiqué pas mal de méditation assise dans différentes écoles. Et puis j'ai rencontré cette tradition de méditation allongée. On faisait des retraites de 10 jours ou 15 jours de méditation allongée. Et puis c'était plus intensif, il y avait plus d'heures que ce qu'on fait ici. Et en fait, je me rappelle d'une grande frustration pour moi parce que déjà, en fait, dans la méditation allongée, on ne retrouve pas ce que, ou en tout cas pas au début, ou en tout, pas facilement, ce qu'on trouve dans la posture assise, cette espèce de clarté qu'on trouve dans la posture assise, et cette sensation d'être présent. Alors que dans la méditation allongée, on a moins de clarté. Il y a des moments de clarté qui apparaissent comme ça, mais sans qu'on fasse d'efforts, ils sont là, et puis ils s'en vont. Tandis que dans la méditation assise, il y a un lien entre l'effort juste qu'on va appliquer et des moments de clarté. Et on sent ça, et cette clarté-là, elle est magnifique. Et après ça, et je me rappelle très bien, en fait, ce qui me manquait énormément, c'était après quelques jours de retraite, dans les retraites de méditation assise, quand je sortais dans la nature, je me sentais très présent et je voyais la beauté de toute chose. Alors que dans les retraites de méditation allongée, je me sentais moins présent et du coup, j'avais moins accès à cette précision du regard. Et du coup, c'est frustrant et c'est aussi un peu inquiétant Parce qu'on se dit, est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose là? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Comment, c'est quoi les rouages sous-jacents à la méditation allongée? Parce que dans la méditation assise, on peut le sentir assez vite. On peut sortir assez vite qu'on perd le contrôle, on regagne le contrôle, on repère le contrôle, on regagne le contrôle. Des moments où on arrive à rester présent sur plusieurs respirations ou à entendre plusieurs chants d'oiseaux l'un derrière les autres sans partir dans les pensées. Donc il y a tout un jeu où on est bien impliqué, on est bien dedans et il y a des moments où on sent vraiment assez rapidement des bénéfices ou en tout cas des résultats directs. Dans la méditation allongée, ça peut. Mais comme je viens de le dire, souvent, bah, c'est juste beaucoup de sommeil et quelque chose d'assez brumeux, en fait. Et pour celui qui va persévérer, en fait, il va trouver autre chose que cette clarté de la méditation assise, cette précision, cette magnifique précision de la posture assise. Comme je le disais quand j'introduisais la méditation marché, chaque posture à une atmosphère. Les quatre postures, assis, allongé, marché et debout, les quatre postures induisent une atmosphère de l'esprit. C'est clair que ce n'est pas la même atmosphère quand on est allongé que quand on est assis. Et ce n'est pas la même atmosphère quand on marche que quand on est juste debout sans bouger. Et au début, dans la méditation allongée, on ne voit pas sa beauté. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de méditer assis. Parce que, comme je le disais, méditer assis, très vite, on va voir, tac, là, on a une prise. Là, on arrive à tenir. Et du coup, on sent que ça ouvre un espace. Et parfois, on se sent très présent. Et il y a quelque chose de fort, de touchant, de magnifique, et qui nous montre un chemin. Dans la méditation allongée, ça peut se passer comme ça, mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus... Tout se passe un petit peu dans des brumes, dans des états de semi-conscience, dans des changements d'état très très flagrants du sommeil profond, comme on le disait tout à l'heure, du sommeil profond, à toutes ces couches de conscience dans lesquelles se produisent les rêves, à ces couches de conscience dans lesquelles ce n'est pas du rêve, parce qu'on est quand même un peu conscient, mais on n'est pas conscient comme si on était assis en méditation, et du coup il y a plein d'idées complètement autres et bizarres, et des images qui viennent. Alors on n'est pas en train de dormir, mais ce n'est pas non plus les pensées comme on a d'habitude. Là, on est encore dans d'autres couches de conscience, et puis des couches de conscience dans lesquelles c'est la distraction comme d'hab, qu'on connaît bien, et puis des couches de conscience dans lesquelles il y a un grand silence aussi, à certains moments, et une présence à ce qui nous entoure. Des moments où on se sent, on n'est pas conscient qu'on est présent, mais en même temps, on est présent, et on entend les sons comme s'ils étaient très loin, mais on les entend. Mais on ne se dit pas qu'on les entend. On n'a pas cette... être conscient et savoir qu'on est conscient. Donc dans la méditation allongée, il y a un peu tout ça et ça navigue beaucoup là-dedans et on ne prend pas le contrôle, on lâche les rênes. On lâche les rênes complètement. Alors que dans la posture assise, on ne lâche pas les rênes, on prend les rênes, on garde le contrôle, on gère notre méditation, on dirige notre attention, on rattrape notre attention, on ramène notre attention. Donc ce n'est pas la même attitude de l'esprit. Et l'attitude de l'esprit de la position assise correspond très bien à la position assise. C'est la meilleure position pour faire ça. Et donc pour pratiquer n'importe quelle technique, c'est la meilleure des postures, à mon sens. C'est la position assise avec la colonne vertébrale suffisamment droite pour induire cette clarté de l'esprit. Et dès que la colonne vertébrale se plie un petit peu, c'est parce qu'on perd cette clarté de l'esprit et qu'on va vers le sommeil. Et donc cette posture assise et cette clarté, en fait, elles vont ensemble. C'est un kit complet. Et c'est dans cette posture qu'on peut pratiquer quelque chose. Des techniques, des approches, des manières de voir. On peut essayer plein de choses dans cette posture. Dans la méditation allongée, c'est plus difficile d'essayer des techniques, des approches, parce qu'on a moins de contrôle. Parce que c'est plus une posture qui incarne le lâcher, le laisser être et le laisser faire. Et moi, je trouve le mariage des deux très, très beau. En fait, je trouve que ça fonctionne très bien. De connaître, en fait, les quatre postures, de connaître les quatre postures, de savoir quand les utiliser, quand on en a besoin. Par exemple, Donc chaque posture va avoir sa spécificité et son usage, sa place à différents moments de notre vie, parfois dans la même journée ou parfois dans des périodes de notre vie. Typiquement, la méditation allongée est à mon sens la meilleure posture pour digérer les émotions difficiles. Parce qu'en fait, on se retire du chemin, parce que quand il y a des émotions difficiles, on voudrait les gérer nous-mêmes. Se dire ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, comment il faut faire, là je vais faire comme ça, alors là je vais essayer telle manière de voir, telle approche, telle technique et tout ça. Mais parfois en fait, cette attitude de confiance, parce qu'on incarne la confiance quand on s'allonge, vu qu'on perd le contrôle quand on est allongé, cette attitude de confiance est suffisante pour qu'à l'intérieur notre nature qui est la nature, on n'est rien d'autre que la nature, il n'y a pas quelque chose de nous qui existe en dehors de la nature, rien. Et donc cette nature, et cette nature avec toute son intelligence, va pouvoir prendre soin de cette émotion, de ces émotions. C'est pour ça que quand on est émotionnellement très au défi, c'est bon de dormir beaucoup, parce que sinon on est dans le chemin en fait. Là on laisse de la place. Et pour ceux qui connaissent la méditation allongée, c'est encore mieux que le sommeil, parce qu'on y vient avec une intention, on s'ouvre à se laisser trouver, on s'ouvre à être soigné, on s'ouvre à la conscience, à la confiance. Et par contre, dans la position assise, parfois, quand il y a des émotions qui se présentent, c'est là qu'on peut vraiment contacter l'émotion, vraiment l'accueillir, vraiment être avec, sentir où elle se produit, comment elle s'exprime dans notre esprit. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Les deux sont nécessaires. C'est pour ça que c'est bien de connaître les différentes postures. Comme je le disais tout à l'heure, pour vraiment pouvoir, à mon sens, pratiquer et s'abandonner dans la posture de la méditation allongée, il faut avoir la conscience ou il faut avoir un sens. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut savoir que notre chemin spirituel, quoi que ce soit que ça veuille dire pour vous, chacun peut y mettre un nom, mais ce chemin de marcher dans la vie en s'ouvrant de plus en plus et en devenant des êtres humains dignes de ce nom, il ne dépend pas que de notre travail et de notre contrôle. On doit aussi laisser la place pour qu'il puisse se faire. Vous voyez les deux perspectives ? Il y a une danse entre les deux. On doit avoir cette humilité de savoir que ce qu'on pense connaître de nous-mêmes, il y a beaucoup d'erreurs dans la manière dont on se considère, dans la manière dont on s'explique à nous-mêmes, dans notre narratif de qui on est, de qui on est en tant qu'être humain, de ce que c'est qu'être humain, dans notre narratif de ce que c'est je, le jeu, ce mot central en fait de toute expérience, le jeu, que veut dire je, dans ce narratif en fait, et toute cette image qu'on a de nous-mêmes et toute cette identité, il y a énormément d'erreurs qui nous font souffrir, il y a énormément d'incomplétude, et je pense qu'il nous faut la sensation de savoir qu'il y a beaucoup plus à nous-mêmes que tout ce dont on a conscience de nous-mêmes. Beaucoup plus. Un pressentiment. Un peu comme si on prend cette image de l'iceberg, par exemple, c'est comme si on était l'iceberg et que l'iceberg ne connaît que sa partie en dehors de l'eau. Et qui croit que, vu qu'il ne voit que ça, il n'y a que ça qui existe. Parce qu'il ne peut pas voir ce qu'il y a sous l'eau. Par exemple, une petite analogie. Et nous, de pressentir, en fait, qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense qu'on est. Et qu'on est beaucoup plus complexe et qu'on est beaucoup plus complet. Et qu'on est habité de cette intelligence de la nature, ou pour ceux à qui ça parle de Dieu, ou pour ceux à qui ça parle de la nature de l'esprit, pour ceux qui viennent plus du bouddhisme, quelle que soit la symbolique, en fait, la manière de symboliser ça, de pressentir qu'il y a beaucoup plus à nous-mêmes que ce qu'on connaît. Si on a cette humilité, si on a cette, euh, ce pressentiment, alors on peut se déposer et s'en remettre à ça. Alors on peut s'allonger et trouver un sens à cette pratique. Mais on peut se demander, à juste titre, alors quelle est la différence entre une méditation allongée et une relaxation ? C'est une question qui vient souvent, ça. Et pour moi, la différence, elle est cruciale au niveau de l'intention. L'intention dans une relaxation, c'est la détente du corps et de l'esprit. L'intention dans la méditation allongée, c'est tout tourner vers notre profondeur. C'est une intention vers la profondeur. De nouveau, quelle que soit la manière dont on va la nommer, c'est une intention et un appel à la profondeur. C'est une ouverture à la profondeur. C'est une recherche de connaissance de soi. C'est une recherche de rencontre avec ce qui, en nous, est au-delà de ce qu'on connaît de nous-mêmes. C'est une recherche de s'ouvrir à ce qui, en nous, sait déjà. C'est toutes des manières de dire. Chacun, de nouveau, trouver la vôtre, mais tout ça, c'est des manières de dire que moi, j'utilise. C'est ça qui va faire la différence, pas simplement théorique, mais dans l'expérience. C'est ça qui fera la différence entre une méditation allongée et une relaxation. Ça va appeler une expérience différente, parce que l'intention est différente. On le sait, toute intention va amener un résultat. C'est pour ça que c'est très important d'être conscient de quelles sont nos intentions dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Quelles sont nos intentions ? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans cette vie ? Parce que ça va amener des expériences. Ça va être, va générer des situations, va générer comment se passent nos relations. Et dans la méditation, suivant l'intention, plus l'intention est forte, plus il y a un feu qui brûle à l'intérieur, plus le chemin va s'ouvrir de lui-même. Imaginez par exemple, imaginez la méditation assise, parce que c'est le même principe. Quand on s'assoit pour méditer, si notre attention est extrêmement claire, qu'on n'a absolument aucun intérêt pour toutes nos histoires du passé, tous nos projets, tout ce qui ne va pas dans notre vie, tout ce qu'on voudrait, tous nos désirs, mais vraiment, notre attention est claire, on n'a pas l'intention d'y passer une seule seconde dans ce genre de pensée. Tout ce qu'on veut, c'est être présent. Plus ça est clair, plus il est peu probable qu'on reste perdu pendant des dizaines de minutes dans nos histoires. Pourquoi ? Parce que dès qu'une histoire va nous emporter, l'attention va être là et elle va nous rappeler. Parce qu'elle était tellement forte. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette attention, elle travaille. Pourtant, elle nous rappelle un moment où on était distrait. Où on n'était pas là, en fait. Donc l'attention va nous rappeler un moment dans un moment où on est absent. Elle travaille dans les moments où on n'est pas là. Qu'est-ce qui fait quand je suis en méditation, là je suis en méditation assise, qu'est-ce qui fait que là je suis dans une histoire, là mon histoire tourne, alors je ne suis plus du tout avec ma respiration, je ne suis plus du tout conscient de ma propre présence, je ne suis plus du tout avec les sons, ou je suis complètement parti dans une histoire. Et à un moment, tac, je le remarque. Ce moment, il est étonnant. Je suis dans une histoire qui n'est pas du tout finie, qui est très prenante. Qu'est-ce qui, à un moment, fait que j'en sors ? L'intention. Parce que j'étais là pour la méditation et je sais que j'étais là pour la méditation. Et quelque chose me rappelle l'intention que j'avais posée au départ. Donc cette intention, elle est cruciale dans la méditation. Que notre corps-esprit sache quand on s'allonge que notre intention n'est pas de se reposer. C'est magnifique de se reposer, c'est pas du tout un problème, mais c'est pas ça qu'on vient chercher. Notre intention n'est pas de se détendre. De nouveau, c'est absolument nécessaire de se détendre. Il n'y aura pas de méditation profonde sans détente, dans n'importe quelle posture. Donc la détente est bien nécessaire, mais ce n'est pas notre intention. Notre intention est toute tournée vers la profondeur, quelle que soit notre manière de la symboliser. vers ce qu'on peut pressentir de plus profond. C'est un appel à ce qu'il y a de plus profond ou de plus élevé. Donc cette retraite est une invitation à la douceur. Cette douceur sera d'autant plus possible pour nous qu'il y a une confiance. Qu'il y a une confiance dans le fait que on n'est pas tout le temps obligé de porter notre chemin, mais aussi que le chemin, il se fait. On a toujours ces deux perspectives. On les aura toujours. Ce qui est magnifique, c'est qu'on les a maintenant en physique depuis une centaine d'années. Et qu'on peut aller d'une à l'autre, souvent elles se contredisent. On a ça dans la spiritualité depuis des milliers d'années, le relatif et l'absolu. Et donc d'une manière, c'est nous qui faisons notre chemin avec notre discipline, nos compréhensions, notre recherche, et d'une autre manière, en fait, le chemin, en fait, il se fait. Et les deux, on peut voir les deux. Et dans le chemin se fait, il y a plus une atmosphère de non-faire, du coup. Et la méditation allongée incarne, des quatre postures pour moi, est celle qui incarne le plus le non-faire et le laisser-être. Bien sûr, ça se retrouve aussi dans les autres postures. Et elles ont une intersection énorme, ces postures. En fait, celui qui pratique la méditation allongée, à un moment, va retrouver l'atmosphère de la méditation allongée dans la posture assise. Elles vont se rapprocher de plus en plus. Mais l'attitude de la position allongée induit le non-faire. La sensation « je ne suis pas acteur ». Mais pour pouvoir amener encore plus de douceur, dans cette retraite, ce que j'aimerais proposer, c'est aussi qu'il y ait une pratique active de bienveillance. Et parce que je pense que ce mariage des deux, en fait, peut nous permettre d'aller de lâcher encore plus. Parce que souvent, je pense même on peut dire tout le temps, à l'arrière de notre esprit, il y a des pensées inconscientes peut-être qui sont présentes. Et dans ces pensées vis-à-vis de nous-mêmes, on va rester pour le moment vis-à-vis de nous-mêmes, il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup de dureté, il y a beaucoup d'intolérance, il y a beaucoup de critique, il y a beaucoup de non-acceptation, beaucoup de dureté. Et ça, c'est presque là par défaut. C'est presque là tout le temps qu'on en soit. Parfois, ça émerge un petit peu dans notre conscience et on peut le voir un petit peu, le bout de son nez, de cette critique intérieure. Mais sinon, c'est comme une attitude incarnée, inhérente, méconnue, que presque, c'est comme une atmosphère intérieure, en fait, dans laquelle il y a beaucoup de jugement vis-à-vis de nous-mêmes. Bien sûr, ça se dissout et disparaît au moment de la méditation allongée. Moins il y a d'activité de l'esprit, moins il y a de critique intérieure. Mais il va y avoir toujours ces fenêtres. Je pense à des fenêtres parce que c'est un enseignant avec qui j'avais suivi une retraite qui disait que c'est comme des fenêtres d'ordinateur. Vous savez, qui sont quand on travaille sur différentes fenêtres et puis après ça on les réduit et en fait on ne les voit plus. Mais elles sont là et elles travaillent. Et souvent, même s'il y en a trop d'ouvertes, elles ralentissent l'ordinateur. Il faisait cette comparaison-là. Et on a des fenêtres ouvertes comme ça à l'intérieur, mais qui sont réduites, qu'on ne voit pas, mais qui, quelque part, encombrent. Et même si la méditation allongée va adoucir, permettre de gérer, en associant une pratique active de bienveillance, on peut augmenter la capacité simplement de s'accueillir et de s'aimer. Et peut-être même que On est encore tout au début de cette retraite. On pourrait commencer par envisager le pardon. Juste le pardon juste tourner vers soi-même. Juste pour tout ce qu'on s'est déjà fait au cours de cette vie. Parce qu'on s'en est fait quand même. Hein. Et on s'en fait encore. Des endroits où on se blesse, des endroits où on se nie, où on ne s'écoute pas. Où on se martyrise parfois, des endroits où on se maltraite. Combien de fois dans nos pensées, dans nos actes. Et puis il y a tous ces endroits où du coup on s'en veut de ça. Et ça, c'est une des fenêtres qui est là, tout le temps quelque part ouverte et qui fait partie de la critique intérieure. Et là, pour pouvoir vraiment s'abandonner, pour pouvoir vraiment s'ouvrir, il va falloir pouvoir se pardonner. Et là, ben quelle est la meilleure manière que de simplement le conscientiser et se le dire? Après ce discours, je guiderai une méditation dans laquelle les éléments que j'ai introduits maintenant seront proposés. Ah, c'était pas sur le programme, mais voilà, c'est un bonus. Donc on commencera, enfin on inclura un moment où on va dans ce domaine, dans cette possibilité en fait de s'accorder à soi-même le pardon, de se pardonner pour ces moments où on ne s'est pas écouté, ces moments où on s'est maltraité. Histoire de pouvoir détendre un peu, de pouvoir lâcher un peu, de pouvoir réintroduire un peu plus d'amour et d'amour pour soi. Et puis après, on va passer à des souhaits et se souhaiter et activement se souhaiter des belles choses. Quoi de plus beau que de souhaiter des belles choses? Est-ce qu'on le fait vraiment souvent? Pourtant, on vient parler des intentions et de la puissance des intentions et de comment les intentions mettent en mouvement ce qui va se produire. Quoi de plus intelligent que de se souhaiter les choses qui nous semblent les plus désirables? On ne parle plus là des désirs de oh, je reprendrais bien encore une tartine de pâte à chocolatée ou j'ai encore envie d'une troisième tasse de café. Genre. On ne parle plus de ce genre de désirs. Ces désirs qui nient nos désirs profonds. Hein, où profondément on désirerait en fait être satisfait avec les choses telles qu'elles sont. Et pas tout le temps vouloir des choses en plus à ce petit désir. Si ce désir est satisfait, alors je suis heureux. Si ce désir est insatisfait, alors je suis heureux. On est gavé de ça en fait. On est gavé de ces désirs et de ces recherches de plaisir, comme si c'est la satisfaction de ces plaisirs allait nous rendre heureux. Mais oui, parce que déjà c'est la tendance humaine, peut-être bien depuis le départ, et parce qu'aussi c'est magnifié à cette époque de notre société où on a grandi comme ça. C'est ça qu'on nous a appris. Si tu as ça, tu seras heureux. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être heureux. Et si tu as ça, tu seras heureux. Si tu deviens ceci, tu seras heureux. Si tu ne deviens pas ça, tu ne peux pas être heureux. Ah donc, on est fioulé au désir, là. Et ça donne du mouvement, en fait. Mais nous, et ça, vous le savez tous, ce n'est pas une question de valeur. C'est que si on se pose 2 minutes et qu'on regarde profondément ce qu'on désire, ça ne va pas être de manger plus. Ça ne va même pas être de manger ceci ou cela. Ça ne va pas aller dans ces zones-là. Ça va aller dans des zones profondes d'ouverture, d'acceptation, d'être libre de nos névroses, de désir de vivre avec une dignité, de s'ouvrir, de devenir une personne de plus en plus belle, désir de rencontrer notre monde intérieur, désir de se connaître pleinement. Désir de vivre avec un cœur sans peur. C'est ces désirs-là, en fait, qui vont émerger. Ça, ces désirs-là, ils ont beaucoup de valeur. Que ces désirs deviennent des intentions et nous sommes des personnes en mouvement. Et plus ces désirs seront brûlants, plus ces attentions seront présentes, plus c'est la direction qu'on prendra. Mais il faut les connaître, ces désirs. Si on est tout le temps avec notre attention à l'extérieur, en train de chasser le prochain petit plaisir et avec notre attention sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit gérer, et qu'on ne prend jamais le temps en fait, de se poser la question, qu'est-ce qui vraiment compte pour moi? Qu'est-ce que je voudrais qui se manifeste dans cette vie? Profondément, qu'est-ce que je voudrais qui se manifeste dans cette vie? Une vie, c'est long, mais c'est court. C'est très long, mais c'est très court. C'est ça le bizarre du temps. Mais les quelques personnes âgées avec lesquelles j'ai parlé me disaient toute leur surprise de voir que déjà, c'était fini pratiquement. Et qu'il y avait un truc bizarre, en fait, dans la manière dont c'était passé. Ça me fait penser à une citation. Donc nous parlions de discerner, de raffiner nos attentions, de clarifier nos attentions pour rendre de plus en plus évident ce qui compte vraiment et pour être de moins en moins hypnotisé par des attentions superficielles qui quelque part sont en contradiction avec nos attentions profondes. Et là cette citation et de Rumi, qui dit « Le prophète a dit, avec raison, que nul de ceux qui ont quitté ce monde n'éprouve de chagrin, de regret et de déception à cause de la mort. Oh non! Mais il éprouve sans regret d'avoir manqué l'opportunité, se disant « Pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet ?» On disait « La vie est courte ». Pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet, elle qui est le dépôt de toute fortune et de toute provision? Et pourquoi, voyant double, ai-je fait pendant toute la vie de ces fantômes qui se sont évanouis à l'heure du destin l'objet de mon attention? Je vais le relire, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de l'articuler avec ce qu'on est en train de dire. Le prophète a dit avec raison, que nul de ceux qui ont quitté ce monde n'éprouve de chagrin, de regret et de déception à cause de la mort. Oh non! Mais il éprouve sans regret d'avoir manqué l'opportunité. Se disant, pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet? Donc, pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet? C'est ce qu'on disait tout à l'heure de savoir que vraiment la vie est courte. Et d'avoir cette conscience. La vie est courte. Et du coup, qu'est-ce qui compte vraiment? D'avoir ça en soi, de vivre avec cette pensée. Qu'est-ce qui compte vraiment? Parce qu'on a tendance à vivre comme si on avait toute la vie devant nous. Comme si ça n'allait jamais s'arrêter. C'est Jung qui disait ça, je pense, que c'était quelque chose d'absolument étonnant chez l'homme, qu'il sait qu'il est mortel, mais il vit comme s'il est éternel. Et on se reconnaît là-dedans. Mais en fait, ce qui nous dit ici, c'est « Fais la mort de la mort ton objet, sache qu'elle arrive bientôt. » Et du coup, dirige ton attention vers ce qui compte vraiment. Parce que c'est ça le regret au moment de la mort, c'est de n'avoir pas vécu avec ce qui compte. Et du coup, voyant double, alors il faut que je reprenne ailleurs. Pourquoi n'ai-je pas fait de la mort mon objet, elle qui est le dépôt de toute fortune et de toute provision? Et pourquoi, voyant double, ai-je fait pendant toute la vie de ces fantômes qui se sont évanouis à l'heure du destin l'objet de mon intention? De ces fantômes qui se sont évanouis. Donc on investit notre bonheur et nos recherches dans des choses qui disparaissent, en fait, qui sont futiles et qui ne sont plus, qui n'ont rien à mener, dont on puisse être fier ou emporté avec nous à l'heure de la mort. peut-être une manière d'entendre. Donc dans cette pratique que je vais guider, on va prendre le temps de se poser la question. Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et vous verrez qu'en fait, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas ce soir qu'on va le trouver. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On va trouver des choses ce soir, j'espère, pour vous, hein, que vous allez trouver des choses. Il y a des degrés dans ce qui compte. Et il y a une certaine profondeur jusqu'où on peut aller. C'est pas que des mots, ça veut dire quelque chose à chaque fois. On pourrait dire ce qui compte avec moi, la rencontre avec Dieu. Mais ça veut dire quoi? Hein? Il faut que ça symbolise et que ça exprime quelque chose pour nous. Donc, c'est pas quelque... C'est, en fait, de se poser cette question et de considérer, de prendre le temps de considérer cette question régulièrement, va permettre que peu à peu, on commence à voir clair dans ce qui compte vraiment. Et c'est là que, du coup, ça peut prendre une place réelle dans notre vie et qu'on arrête de s'édifier sur les formes phénoménales, le dit Rumi. Voyant double et distrait par la poursuite de petits désirs, désir de quelqu'un de renommée, désir de pouvoir, désir de tel type d'alimentation, désir de telle chose. Et hypnotisé par tous ces désirs, on n'a pas vu ce qu'on désirait vraiment. Et à un moment, ça vient, bam, trop tard. Oh non, maintenant, je vois ce que j'aurais bien... Je vois bien ce que j'aurais voulu désirer depuis le début. Oui, donc, c'est de se poser la question au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. De se poser la question au bon moment, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux qui se manifeste dans ma vie? Qu'est-ce que profondément je désire? À quoi est-ce que profondément j'aspire? Et quand on trouve quelque chose, eh ben on va se le souhaiter. On va le souhaiter parce qu'on est bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. On va souhaiter que telle chose prenne place dans notre vie. Ça vous va comme programme? Ok. Ben on fait ça alors. On va... faire donc une méditation assise ou allongée, comme vous voulez. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.